France Inter.
Je pense que pour avoir le sentiment d'être socialement maltraité, il n'y a pas besoin d'avoir subi un inceste. Je pense que c'est quelque chose de très courant, de très quotidien. Donc je crois que personne n'échappe à ce régime de sensations.
Moi, j'avais très peur d'avoir une toute petite vie. Je sentais que ma grande vie, ça allait être d'être sur scène et de pouvoir faire ce métier. Aujourd'hui, quand je monte sur scène, c'est aussi une manière de dire à l'enfant que j'étais, je t'ai exaucé.
Les éditions Stock proposent régulièrement à des écrivains de passer une nuit dans un musée et de livrer ensuite un texte. Christine Angot a joué le jeu à sa manière. Elle a quitté la Bourse du Commerce à 1h du matin, le lieu parisien qui abrite la collection d'art de François Pinault, mais elle a rendu sa copie ensuite, la nuit, sur commande. L'art y est présent, son regard sur le marché de l'art, sur le milieu artistique et ses dîners mondains, mais aussi sur ce qui la constitue, l'écriture, l'inceste, l'amour d'une mère pour sa fille, Léonore, et l'amour d'une fille pour sa mère. Bonjour Christine Angot.
Bonjour.
Les éditions Stock vous ont-elles grondé de quitter les lieux en pleine nuit ?
C'est très marrant qu'on ne me parle que de ça.
Mais non, c'est juste une question comme ça.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que je suis étonnée
on puisse penser ça.
Non, mais qu'il y ait un tel attachement aux 8 heures par jour, aux 40 heures par semaine ou aux 36 heures par semaine. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose de l'ordre de l'horaire qui semble très important, alors que l'horaire, c'est quelque chose d'extérieur. Moi, j'ai mes horaires. C'est pas les mêmes. C'est
ben
pas
oui.
Moi, 1h du matin, normalement, je dors déjà depuis 4h.
Donc la nuit était faite.
Largement.
On va en parler dans un instant avec vous et puis avec votre invité. Vous avez souhaité la présence d'un comédien de théâtre qui fait aussi du cinéma, de la télé, qui nous fait rire et pas seulement, un acteur populaire. Bonjour Vincent Dedienne.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu.
C'est moi. Alors là, franchement, c'est moi.
À l'invitation de Christine Angot, vous qui êtes gourmand, vous qui êtes éclectique, jouer, chanter, animer un jeu télé, vous savez faire. Est-ce que vous auriez aimé avoir le don de l'écriture ?
Ah oui, je pense, oui. Je referais bien une vie d'écrivain, ouais.
Après
celle-là. mais en même temps, ça me va d'être un lecteur et d'être un lecteur attentif et amoureux.
De servir les auteurs.
Ah oui, et aussi de les jouer, ouais, bien sûr.
On se rendra aussi à Antibes, dans ce grand atelier à la Fondation Hartung Bergmann, ce lieu habité par un couple de peintres aujourd'hui disparus, mais un lieu qui propose à partir du 5 mai une exposition d'étoiles de Hans Hartung et de Anna Eva Bergmann sur le thème des paysages intérieurs. 17h07, c'est votre magazine culturel en direct sur Inter.
France Inter, le grand atelier, Vincent Jos.
Et vous, Christine Angot, est-ce que vous auriez aimé être comédienne ?
Oh, je crois qu'on ne peut pas tout faire. Et puis, j'aime bien être sur un plateau avec un texte. Mais non, je ne crois pas que j'aurais aimé jouer, en fait. J'aurais pas aimé spécialement... on peut pas tout faire, vraiment, on peut pas tout faire. Et ma vie, c'est écrire. Donc, c'est ce que j'aime.
Oui, mais c'est parfois, et vous le disiez, dire vos textes sur scène. En 2013, notamment, il y avait des comédiens avec vous.
Oui, ça, je l'ai fait plusieurs fois. J'aime le faire. Oui, je l'ai fait récemment aussi à la Bourse de Commerce, justement, avec ce texte-là. J'aime bien le faire. Mais ça ne fait pas de moi une actrice.
Mmh.
Et non, j'ai une trop de passion pour écrire, pour penser que j'aurais pu faire autre chose. Ou alors vendre des vêtements. Ça, j'aurais bien aimé.
Ah bon ?
Mais
Cette taille vous va très bien. Je ne vois pas du tout dans les vêtements. Allez, on vous retrouve dans un instant avec Vincent Dedienne. Je ne sais pas s'il veut vendre des vêtements aussi, s'il aurait aimé. On va écouter une chanson du groupe américain Bon Hiver. Et on vous retrouve tous les deux tout de suite.
Tell you that I don't know, but you're favored now by 50, and I'm right at home.
Bon hiver sur France Inter.
Le Grand Atelier. Vincent Josse sur France Inter.
Dans La Nuit sur Commande, Christine Angot, dans lequel vous livrez beaucoup, beaucoup de choses, et d'ailleurs sans du tout entrer dans une forme de catalogue, c'est ça qui est assez magique. Beaucoup de choses sur l'art, sur celles et ceux qui le font, sur vous, sur ce que vous vivez, sur ce que vous éprouvez. Vous rappelez entre autres l'inceste subi par votre père, et je le dis parce que c'est vraiment précisé dans le livre, entre 13 et 16 ans, puis 2 mois à 25 ans. Vous évoquez aussi votre amour du théâtre et des comédiens. C'est vrai qu'on vous voit assez souvent dans les salles, on vous a vu à Avignon, vous avez même fait des comptes rendus pour une revue, La Règle du Jeu. Le théâtre vous attire plus que le cinéma?
Oh, comment dire disons que au théâtre, moi j'aime le cinéma. Hein. Mmh. Oui, j'aime le cinéma, bien sûr.
Ah, vous avez tourné.
Après, ça dépend quel film, hein, mais bien sûr. Mais non, mais le théâtre, tout dépend. Il y a un type de théâtre qui parfois m'intéresse moyennement. Mais quand il y a un texte, c'est extraordinaire. Enfin, ça peut l'être. Quand il y a un texte, ça peut être extraordinaire.
Vous écrivez « Je retrouve au théâtre quelque chose de la littérature ».
Ah ben voilà, vous voyez, c'est ça. Et là, notamment, il y a les fausses confidences, là, en ce moment, qui sont mises en scène par Alain Françon.
Mmh. À la Porte Saint-Martin, à Paris.
Mais on ne peut même pas le croire, tellement c'est beau. C'est d'une telle beauté, on n'arrive même pas à croire qu'il est possible de dire tout ça avec des signes de ponctuation, des mots, des acteurs, voilà. C'est dingue. C'est dingue. Donc quand même, la puissance de la littérature se trouve là, ça éclate, quoi. Ouais. C'est extraordinaire.
Vincent acquiesce, Vincent de Dienne.
Oui, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, là. Je ne l'avais pas vu, je l'ai vu la semaine dernière, je crois.
C'est un texte qui se dit vite.
Mais je ne savais même pas que c'était possible d'entendre du Marivaux aussi rapidement et de jouer aussi vite Marivaux et qu'on comprenne tout et qu'on entende tout. Mais il faut dire, bon, il y a la force, la puissance, l'intelligence d'Alain Françon, et puis il y a aussi ces comédiens-là, oui. Georges Ascalietti, Dominique Valadier, Gilles Privat, c'est vraiment
c'est un grand casting, c'est des
brutes, c'est merveilleux.
Vous voulez qu'on l'écoute, Alain Françon, il me disait dans les années 90 déjà des choses pas inintéressantes, je crois, sur le théâtre et la mise en scène.
Vous savez, quand on répète dans une salle noire, on est très à l'abri, quoi, et on est à l'abri du monde. Je trouve que c'est plus facile d'être dans une salle noire et de répéter que d'être sur les quais de la Seine et de regarder ce qui se passe, quoi, ou dans le métro. Donc, je trouve que c'est une chance inouïe de répéter. Alors, à partir du moment où on a cette chance, je veux dire, moi, je convoque les gens à être graves et à réfléchir. Ça me paraît être la moindre des choses, quoi. Sinon, il faut pas faire ce métier. Et à partir du moment où on a cette notion-là, de gravité ou de sérieux, je veux dire, les choses, elles s'enchaînent d'elles-mêmes, quoi. Je pense vraiment que le théâtre, si c'est de l'art, c'est plus violent et plus dur que la vie. Et sinon, il ne faut pas en faire parce que c'est l'illusion et ce n'est pas intéressant.
Fascinant, Go.
C'est intéressant. Voilà, avec ce mot d'illusion, ça, sinon c'est de l'illusion et ce n'est pas intéressant.
Oui, il ne faut pas en faire, il dit.
Voilà, ben oui, il ne faut pas en faire. C'est tellement vrai. Alors que, justement, il y a une idée qui est courante sur l'art. C'est que ce serait que l'intérêt, ce serait justement l'illusion. Ça serait de se changer les idées. Ça serait d'aller voir ailleurs, quoi. Alors que non, justement. Et il le dit très clairement.
Alain Françon, qui a été l'un des maîtres, si je puis dire, et le mot est peut-être un petit peu fort ou pas, d'ailleurs, de Vincent de Dienne. Rappelez-nous quand il vous dirige.
On a fait ensemble le chapeau de paille d'Italie La Biche l'année dernière, c'était il y a un an, je crois.
Vous a valu un Molière.
Oui, c'est vrai. Ouais, mais ce qui m'a valu surtout des mois et des mois de travail avec Alain. Moi, j'aurais pu ne jamais jouer le spectacle. J'aurais voulu presque ne jamais le jouer et faire que le répéter encore et encore.
Beaucoup
tous les
d'acteurs
jours.
Disent ça.
Ouais, avec Alain Françon.
Ouais.
C'est pas le cas de tous les metteurs en scène. Il y a des fois, on est bien content que la première arrive pour se débarrasser du metteur en scène, mais avec Alain, c'était l'inverse. C'était être confronté tous les jours à l'intelligence, à la recherche, à la. Mais effectivement, il a raison quand il dit qu'on est à l'abri. C'est vrai qu'on est, c'est vraiment un abri sous les bombes. Le théâtre, on est vraiment très 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 protégé. On se sent bien. Et je me demandais en l'entendant là si c'était la même chose dans l'écriture, si un écrivain, une écrivaine se sentait protégé au moment quand il est devant sa table de travail, ou si c'était pas du tout la même chose.
Christine Angot.
C'est-à-dire que c'est très curieux en fait, parce que la protection, elle consisterait à se dire qu'on est dans un endroit où ça pourrait être vrai, où il y a quelque chose de vrai. S'il peut y avoir quelque chose de vrai, ça va être là. Bon. Donc, c'est bien. Et en même temps, comment faire pour que ça sorte ? Donc, c'est une protection, vous avez une espèce de but, comme ça, mais très inquiétant aussi en même temps. Parce que, bon, voilà. Donc, disons que le texte, à la différence de théâtre, n'est pas écrit à l'avance. C'est la grande différence. Et on n'est pas sûr que ça sorte. Ouais. Voilà.
Et puis quand ça sort, ça peut faire mal.
Donc c'est un peu inquiétant. Non.
Jamais ?
Ben non.
Ben ça vous met dans tous vos états parfois.
Ah bon ?
Ben oui, je vous lis Christine Angot.
Ah non, non.
Il y a des moments où vous pleurez quand vous écrivez.
Ah oui, mais quand ça sort, vous dites. Ah, je croyais que vous vouliez dire.
Ah non, pardon, on s'est mal compris. Ah quand le texte vient
alors ça,
sous
c'est...
vos doigts.
Alors ça, c'est très, très intéressant et très complexe. Il y a deux choses en même temps, en fait. Les deux choses arrivent en même temps. C'est-à-dire, à la fois, il y a quelque chose qui peut faire pleurer. Parce que comme la chose s'exprime clairement et qu'on la voit comme elle est dans la phrase, alors tout d'un coup on se rend compte de ce que c'est, de ce qu'est la chose qu'on essaye d'écrire. Elle, on l'a écrit. Alors là, on voit bien ce que c'est. La phrase est claire. Donc cette clarté, elle peut être, en effet, faire pleurer. Et en même temps, elle est source de joie. Parce que, bon sang, je l'ai écrit. Donc, il y a deux trucs en même temps.
Vous dites d'ailleurs, bon, parfois je me relis et puis je trouve ça pas si mal. C'est ça aussi, ça peut être de la joie. De se dire, ah ben oui, c'est pas si mal.
Non, mais c'est pas le but, franchement. Il n'y a pas du tout ce genre de but de contemplation. C'est pas du tout. C'est pas une contemplation de soi, ce qu'on a fait. Non, pas du tout, franchement. En revanche, de se dire, ça, j'ai écrit, ça y est, c'est écrit. La chose est écrite. Voilà. C'est ça, s'il y a une joie, et il y en a une, elle est là. Le truc est écrit.
Vivre avec Christine Angot, est-ce que c'est difficile, d'après vous? Je pense à Claude, qui a été votre mari, aux hommes qui lui ont succédé dans votre vie, et puis à votre fille, Léonore, qui est très présente dans ce nouveau roman. Léonore Chastanier, sculptrice aujourd'hui.
C'est-à-dire que vivre, oui, disons que c'est, comment dire, parce que à la fois vous êtes là pleinement et en même temps il y a quand même des très longs moments où vous êtes préoccupé par autre chose, totalement, et où vous ne souhaitez pas, ne pouvez pas en parler. Par exemple, je ne devrais jamais dire ce que je vais dire, mais je suis en train de le dire, donc...
À 17h20 dans le grand atelier sur France Inter.
Par exemple, je suis en train d'essayer d'écrire quelque chose où intervient quelqu'un que j'ai connu et qui porte un certain prénom. C'est logique. Bon, qu'il y a un prénom dans la réalité et dans le livre. Eh bien, je suis obligée, souvent, par rapport à la personne avec qui je vis en ce moment, de me retenir, de ne pas l'appeler par le prénom en question.
Ah oui.
Voyez ? Donc, parce que ça ne serait pas très agréable pour lui. Bon, ça, vous voyez, ça arrive. Et donc, il y a quand même une division, quoi, une espèce de... Il y a la vie avec les autres et il y a la vie avec l'ordinateur.
Votre fille vous voit écrire quand elle est enfant et adolescente. Et un jour, à la Fondation Ricard, qui a demandé à Christine Angot d'écrire sur sa fille et à sa fille Léonore d'écrire sur sa mère, chacune dit le texte et on écoute un petit moment de Léonore qui parle de sa mère.
Quand elle était entre deux livres, elle allait mal. Elle me demandait « Est-ce que tu crois que je vais réussir à écrire à nouveau ?» Je me souviens notamment d'une fois où elle était en sanglots, allongée sur le canapé du salon. J'étais à genoux près d'elle. J'avais passé les bras autour de son cou. Elle insistait. « Tu penses vraiment que je vais y arriver ? Tu es sûre ? Pourquoi tu es sûre ? Comment tu sais ? » Je savais qu'elle allait réussir à écrire à nouveau. Je le lui répétais autant de fois qu'elle posait la question. Quand elle était dans un livre, je la voyais souvent pleurer en même temps qu'elle tapait sur le clavier de son ordinateur. Je ne m'inquiétais pas du tout. Je savais que ce n'était pas de la tristesse, mais que simplement, elle était ailleurs.
Et je lis dans « La nuit sur commande » de Christine Angot cette phrase-ci. « Ça avait dû être horrible pour Léonore de grandir avec quelqu'un qui est possédé par quelque chose. »
Oui. Et en même temps, je trouve ça très beau quand elle dit « Je ne m'inquiétais pas du tout. » Je trouve ça... C'est l'intimité, je trouve. Vraiment. C'est vraiment l'expérience personnelle. C'est pas du tout le cliché sur... l'écrivain, c'est l'expérience personnelle.
Mais vous avez un rapport
très émouvant.
Vous avez un rapport incroyable, elle et vous. C'est quelqu'un qui peut vous prendre dans ses bras comme une mère le ferait, mais c'est la fille.
Et réciproquement.
Bien sûr, mais Parfois, on vous disait un peu violente avec elle. Vous racontez aussi, quand elle est toute petite au Club Med, des gens qui se permettent, ou lors d'un repas, des gens qui disent « Mais madame, je vais appeler la DAS ».
Oui, c'est ça.
Alors que ce qu'elle écrit et ce que vous écrivez montre une intimité, vous le disiez, une complicité totale, un amour profond.
Mais je pense que... Enfin, je pense. Je sais, et la plupart des gens le savent, que l'amour filial est quand même quelque chose... C'est bien pourquoi, puisque vous évoquiez l'inceste.
Bien sûr.
C'est bien pourquoi le crime d'inceste est tellement violent. Parce que l'amour filial est... C'est, oui, c'est une forme de... Je ne sais pas, enfin, de paradis, quoi, de choses absolues, quand même. Et donc, ce truc-là, c'est une agression très importante à cause de ça. Moi, ça me fait rigoler parfois, enfin, ou ça me fait... c'est pénible, quoi, aussi. Quand je vois des gens, par exemple, dans des trucs où on pose des questions, tout ça, dans des débats, qui me disent mais votre père, pourquoi vous avez continué à le voir? Et, alors, en général, je leur dis, est-ce que vous avez eu un père? Bah oui. Oui, c'est des gens qui ont eu un père, qui se permettent de vous dire pourquoi vous continuez à le voir à ce moment-là? On a 13 ans, on vient de rencontrer son père, et y a quelqu'un là comme ça qui se permet de vous dire que vous auriez dû, mais enfin, voilà. Mais non, parce qu'il y a l'espoir aussi que ça s'arrête, évidemment. Donc tout ça pour dire que oui, l'amour filial, ça va loin, quoi. C'est très important. Tout le monde le sait, tout le monde le sent.
Dans un cinéma, un soir, vous projetez votre film et puis il y a une rencontre avec les spectateurs. Et un monsieur vous dit, mais enfin, vous racontez dans le film qu'à 25 ans, ça s'est reproduit avec le père. Ne me dites pas qu'à 25 ans, on peut dire non. On ne peut pas dire non. Et vous mettez dans une colère, j'allais dire à la Christine Angot, celle qu'on peut
imaginer.
Non,
parce qu'à un moment, ça suffit.
Et là, vous vous énervez très
fort.
Mais
parce qu'à un moment, ça suffit. Parce que si vous voulez, quand vous êtes face à un public, comme ça, dans une situation de débat, vous êtes très respectueux et c'est normal. Et les gens essayent de prendre la parole en public, c'est pas facile. Donc, vous les soutenez, vous les accompagnez, bon, etc. Et la plupart des gens, enfin, les gens se comportent, enfin, ils sont très gentils, quoi, vraiment. Bon. Et puis, il y a quelqu'un qui se permet de dire un truc comme ça. Alors, une fois, bon, vous répondez gentiment. Deux fois, vous répondez gentiment. 10 fois, vous répondez gentiment. Et puis, un soir, la question arrive. Et là, c'est pas possible, quoi. Et là, c'est pas possible. Ça suffit. Donc, ça sort, quoi. Ça sort, et en fait, ça devrait sortir dès le début. Les gens n'ont pas à vous dire des trucs pareils. Et je ne sais pas pourquoi, pendant si longtemps, on se laisse comme ça... on se laisse blesser comme ça par le premier venu.
Ça veut dire que personne ne peut jamais comprendre ce que vous avez vécu, par exemple. Vous pensez qu'il faudra toujours écrire des livres avec cette présence-là de ce crime?
Je ne sais pas s'il faut, mais en tout cas, je ne sais pas s'il faut. Mmh. Non, je ne dirais pas qu'il faut. En revanche, je dirais qu'on ne peut pas faire comme si ça n'avait pas eu lieu. Et que si on doit raconter... si je dois parler d'un amour, par exemple, je ne vais pas faire comme si l'amour en question, aussi fort soit-il, n'était pas... qu'il n'y avait pas quand même un petit caillou qui gênait un peu, quoi. Ça, on peut pas faire comme si c'était rien. Mais bon, il n'y a pas que l'inceste qui intervient comme... comme une difficulté dans la vie ou comme un amoureuse des gens. Il y a toutes sortes de d'expériences vécues dans l'enfance, n'est-ce pas?
Ah oui, on rappelle que Vincent de Dienne a été adopté.
Oui. Qui font que chacun fait comme il peut et qu'il y a plein de choses à résoudre avec cet amour qui est à la base, quoi.
C'est une question qui ne s'est pas encore posée dans votre vie, d'ailleurs, Vincent de Dienne. Vous dites souvent que ça n'a pas été un problème parce que vous êtes le fils des parents qui vous ont adopté, que vous n'avez pas encore, ça viendra peut-être, envie d'aller enquêter.
Oui, c'est vrai. C'est pas une curiosité que j'ai, mais c'est parce que c'est une curiosité que j'ai souvent beaucoup plus vue chez les autres, qui se sont toujours posé les questions à ma place et qui ont toujours, parce que les Christine, ils sont toujours mis à ma place, quoi. Donc j'ai toujours eu plutôt moins de curiosité que les gens, mais parce que je suis très bien tombé. Aussi, j'ai vraiment la chance d'avoir une famille. Voilà, la question c'est quelle est la famille. Moi, j'ai vraiment une famille magnifique, donc tout va bien.
Oui, on parlait de cet amour-là entre Christine et Léonore.
Ah ouais, mais ce qui est trop beau dans l'extrait là qu'on a entendu, c'est que Christine dit pas à Léonore quand Léonore dit oui, tu vas réussir à écrire à nouveau. Christine dit pas comment tu peux le savoir. Oui. Elle dit comment tu le sais. Mais non, mais c'est vrai, c'est très très beau.
On va se retrouver après avoir écouté Dany qui chante La fille à la moto, c'est une grande chanson des années 60 de Dany, parce que Dany, elle est présente à deux reprises dans le livre. Ouais. C'est quelqu'un que vous avez croisé, mais que vous n'avez pas rencontré.
Oui, c'est ça, oui. Comme on croise des gens à Paris.
Et vous vous êtes dit, j'aime beaucoup ce que vous faites, et réciproquement, et puis paf, ça ne se fait jamais.
Bah oui, c'est comme ça, hein. Je suis sûre que vous avez des expériences de ce type aussi. C'est-à-dire que parfois, la vie sociale parisienne, c'est un peu une vitrine aussi parfois, un peu un décor. Hein. Donc, voilà, ah tiens, je l'ai vu.
La fille à la moto, Dany, dans le grand atelier de Christine Angot avec Vincent de Dienne.
Chérie, mon amour. Vroom, vroom, c'est mieux que chérie, mon amour. J'aime mieux faire le plein d'essence que de jouer avec mes sens. Je mets la gomme, je mets les gaz. J'aime mieux ça que d'écouter du jazz. Vroom, vroom, c'est mieux que chérie, mon amour. Chérie, mon amour. Quand je suis sur ma Suzuki, tout c'est même le Mikado. Pense à mon corps, pense à mon cri. Mes chevaux, ça 160 chronos. Vroom, vroom, c'est mieux que chérie, mon amour. Vroom, vroom, c'est mieux que chérie, mon amour. Le pied sur l'accélérateur, c'est mieux que la main sur un cœur. Je préfère être couché sur un guidon plutôt que de l'être avec un garçon. Vroom, vroom, c'est mieux que chérie, mon amour. Vroom, vroom, c'est mieux que chérie, mon amour. Je suis la fille à la moto, je suis la seule, je suis.
Christine Angot, je voudrais savoir pourquoi vous avez invité Vincent de Dienne, cet acteur qui a eu un Molière l'année dernière, on vient de le dire, puis qui a reçu aussi déjà dans sa carrière deux Molières de l'humour. Vous êtes fan ?
Alors, je crois que ce qu'il a de très particulier, c'est le sens du rythme.
Oui.
Je crois que c'est ça. Après, il comprend les textes et tout ça, bien sûr. Il y a une acuité par rapport au réel, par rapport au texte et tout, mais je pense que le sens du rythme qu'il a, en plus, il y a plusieurs acteurs qui peuvent avoir le sens du rythme, lui il l'a, pas non plus une loi, hein. Tous les acteurs ne l'ont pas, mais lui il l'a, et c'est le sien, en plus, c'est très particulier. Et puis, alors il y a ça, je pense que c'est ça, hein, la phrase, de toute façon, c'est le rythme, l'intelligence des mots, elle passe dans le rythme, voilà. Donc, et on entend, en fait, quand il parle, quand il dit un texte, on entend ce qu'il pense sans qu'il le souligne. Donc, c'est vraiment un art de l'acteur, quoi. Et puis, je suis très touchée aussi par la façon dont il a fait son chemin. C'est-à-dire que moi, la première fois que je le vois, c'est dans l'émission du matin de Maïtena Berrabah, avec le Premier ministre, là, comment il s'appelait ? Cazeneuve. Il fait un portrait de Cazeneuve. La première fois que je le vois, je l'ai jamais vu. Il fait un portrait de Cazeneuve. Je sais à peine qui est Cazeneuve. Et lui, je ne sais pas du tout qui il est. Je ne l'ai jamais vu. Il est là sur ce plateau. Et il est tellement drôle. Il parle des cravates et tout ça. Enfin, c'est tellement drôle. Bon, et puis ensuite, donc vous voyez, il part d'un petit truc, quoi. C'est même pas une émission du soir, c'est une émission du matin ou du midi.
Midi, ouais.
Voilà, bon. Donc voilà, il fait ça, et puis après, tout d'un coup, il fait je sais pas quoi, il fait un truc au théâtre, dans le off. C'est comment elle s'appelle, la pièce ?
Bah, c'était mon spectacle,
oui,
à Avignon, s'il se passe quelque chose.
Voilà, alors il fait là. Donc il fait ça, mais il y a quoi ? C'est une salle de 100 personnes.
Ouais.
Bon, alors c'est une salle de 100 personnes, je ne sais même pas si elle est pleine le soir où j'y vais.
Mm-hmm.
Bon, bref, et bon, ça se passe super bien et tout ça. Et puis après, je ne sais plus ce qu'il fait, et puis tout d'un coup, et puis voilà
ouais.
Et puis en quelques années, il est là où il est.
Entre-temps,
il a fait son soir de gala.
Oui. Bon,
alors là, tout le monde a compris que c'était irrésistible, c'est-à-dire... qui ne fait pas rire, mais ce qu'il dit, c'est drôle.
Donc... vous avez bien fait de venir, monsieur.
Ah
ouais,
c'est ce que je... hein?
Parce que on va pas dire vous êtes vous aussi merveilleuse, etc. Ce serait ridicule. Mais j'ai lu sur Instagram que vous disiez par exemple, il faut lire ce livre-là pour telle et telle raison. C'est-à-dire que vous êtes un des lecteurs, vous, de Christine Angot. J'ai
oui.
presque envie de vous dire, qu'est-ce que vous trouvez chez Christine Angot qui vous émeut, qui vous bouscule, qui vous intéresse, qui vous passionne peut-être.
Non, bah celle-là, c'est
par exemple sur ce livre-là, on peut
ouais.
parler de celui-là.
Non, mais c'est fou que Christine parle du rythme, parce qu'en fait, moi, ce qui me rend zinzin quand je lis les livres de Christine, c'est que je suis étourdi par les phrases, par l'équilibre des phrases, le rythme des phrases. Par exemple, il y a un livre. Donc c'est pas celui Un tournant de la vie, c'est celui juste avant ? Non,
non,
c'est deux avant. Hein.
Oui.
Ouais.
Oui.
Où il y a beaucoup de dialogues. Il y a peut-être davantage que dans les autres livres. Hein. En mm-hmm. tout cas, parce que dans les livres de Christine Angot, il y a beaucoup de dialogues. Les gens parlent beaucoup, les gens se parlent, se répondent. Ça. Et les dialogues sont... Enfin, moi, quand je lis les livres, j'ai envie de les jouer, les dialogues, tout de suite. C'est vrai, je trouve qu'il y a un sens du rythme et de la comédie, et ça, je veux bien en parler juste après... qui me rend fou, quoi, qui me rend fou de joie, qui me rend fou d'émotion, qui me bouleverse, ça, machin. Donc comme quoi c'est marrant qu'on ait ça en commun dans la
oui.
fiction qu'on a l'un pour l'autre, le rythme.
On recherche chez un auteur, on apprécie ou pas sa musique. Vous avez tout à fait raison.
Oui. Et puis moi je ris beaucoup quand je lis les livres.
Vous allez nous lire un extrait dans le livre. On va en parler un instant avec Christine Angot. Il y a des dîners mondains dans le milieu artistique quand Christine arrive à Paris. Elle a envie de rencontrer, peut-être même de tomber amoureuse d'un artiste. Et puis elle se retrouve amie de...
Ne rêvons pas.
elle se trouve amie, enfin elle rencontre Sophie Calle, qui l'a choisie comme amie, parce que Sophie Calle choisit ses amis, et quelquefois elle en change, ça aussi vous le racontez, Florence Omna était aussi, et peut-être encore une de ses amies, et Christine Angot assiste à des dîners, et ne dit pas grand-chose, ne se sent pas très bien, et vous racontez, vous avez envie de lire un extrait où
oui.
Sophie Calle est présente.
Oui. Alors... Cette année-là, Léonore est allée passer Noël chez son père à Montpellier. Sophie organisait tous les ans un réveillon pour ceux qui ne faisaient rien. Je l'ai appelée. Il fallait apporter un cadeau drôle, bon marché, et correspondant à un thème qui, cette année-là, était politiquement correct. La soirée s'est déroulée chez des amis à elle qui habitaient à Pigalle. On devait déposer son cadeau en arrivant au pied du sapin. Un coin au fond de la pièce était réservé à des cadeaux exclus du tirage au sort, dont un dessin de cristaux destiné à Sophie en remerciement de quelque chose. Il y avait le groupe habituel. Jean-Michel venait d'entrer chez Perrotin. Comme d'habitude, on a parlé un instant à l'écart. Il a dit « Tu sais, depuis très longtemps, j'ai envie de faire un livre. Et je me disais qu'avec toi, ce serait peut-être possible. » À minuit, chacun déballait son paquet sous le regard des autres qui le commentaient. J'ai eu un dérouleur de papier hygiénique. Quelqu'un a dit « ça m'aurait pas plu ». En rentrant, j'ai pensé que j'aurais dû aller voir ma mère à Montpellier et après avoir refermé la porte derrière moi, je me suis effondré en larmes.
Voilà, petit cadeau pour Christine Angot.
Merci Vincent.
Ça vous ramène à ce fameux dîner d'il y a quelques dizaines d'années. C'était quand précisément, à peu près, cette époque ?
Je dirais peut-être 2001, 2002, 2003.
Ça correspond à votre arrivée à Paris après Montpellier ?
Ouais, par là.
Et la question qu'on se pose, et d'ailleurs vous y répondez dans le livre, c'est pourquoi Christine Angot va là ? Est-ce que vous savez répondre à ça ?
Alors d'abord, en fait, c'est rare que j'aille vraiment là. C'est moi, c'est-à-dire que elle me croise dans un café.
Sophie Calle,
au Flore.
Qui est photographe, plasticienne, voilà. Etc.
Voilà. Et donc, et à ce moment-là, moi, je ne sais même pas si j'habite déjà à Paris. Je pense que je viens juste de sortir l'inceste. Et j'ai fait une émission de télé la veille. Elle me croise. Et elle m'aborde dans ce café. Et voilà. Et elle me demande mon numéro de téléphone, etc. Puis après, c'est le régime des invitations. De toute façon, c'est ça, hein, c'est une sociabilité de cooptation. Et c'est comme ça que ces groupes se forment. Il y a quelque chose qui ressemble à de l'amitié, voire à de la passion. Comme ça, comme si vous étiez choisi, il y avait une amitié qui commençait et tout ça. Mais en fait, c'est quand même très proche d'une sociabilité. Lié à un milieu, etc. Mais moi, j'ai mis du temps à comprendre.
Vous ressortiez très mal de ces dîners.
Oui, parce que j'en attendais, parce que je pensais que j'étais, parce que j'en attendais quelque chose qui n'avait aucune chance de se produire. C'est-à-dire un lien ou des liens personnels entre une personne et une autre. Alors qu'en non, c'était plus entre des étiquettes sociales et d'autres étiquettes sociales.
Oui, c'est intéressant parce que je parlais du marché de l'art tout à l'heure. Vous êtes Christine Angot qui a un succès avec l'inceste, mais qui démarre quand même d'une certaine manière dans le milieu de la littérature et qui démarre à Paris. Et vous dites, eux avaient énormément d'argent, ces artistes plasticiens.
Alors à cette époque-là, socialement, c'était pas très différent. Que maintenant, mais en tout cas, oui, il y avait déjà une différence importante.
Et c'est une barrière aussi.
On ne peut pas dire. C'est pas, non, c'est, je ne pense pas du tout que ce soit présenté comme une barrière et que eux soient comme ça dans une... Je n'ai pas l'impression de ça. J'ai l'impression qu'ils ont quand même plus d'intelligence que ça. Mais c'est une réalité. En revanche, c'est une réalité. Ils font que... Voilà. Les gens qui écrivent... ne sont pas sous le même régime de ce point de vue.
En tout cas, le portrait Vincent de Dienne de Sophie.
Mais les gens qui font de la musique contemporaine, par exemple, sont encore dans une autre situation qui n'est pas particulièrement facile non plus sur ce plan-là. Il y a plein de régimes différents.
Les danseurs non plus.
Voilà aussi.
Vincent, ça vous a intéressé ces scènes de la vie quotidienne chez les plasticiens, dans les dîners mondains ?
Oui, ça m'a intéressé. Mais j'ai pas vu une forme, parce que j'ai entendu après des gens dire passer des articles, Christine Angot règle ses comptes ou tout
ça.
Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai pas du tout eu ce sentiment en lisant. Parce que de toute façon, il y a l'idée aussi qui est un peu répandue. Enfin, je sais pas comment dire. Moi, ce qui me plaît dans les livres de Christine, c'est qu'il y a une, il y a elle évidemment, il y a le personnage, enfin le personne, la personne Christine qui écrit tout ça, qui la vie. Mais il y a aussi une attention à l'autre que je trouve. Je trouve que l'autre est très important dans les livres de Christine Angot, au moins autant voire plus que elle. Dans le film qu'elle a réalisé, qui s'appelle une famille, oui, une famille. Il y a une scène avec Claude, dont vous parliez là tout à l'heure, qui est donc
le mari.
Voilà, le mari de Christine.
Angot,
une scène et le père au de café à deux, où il y a un sens de l'autre, de l'empathie. Enfin, cette scène, c'est une grande scène de cinéma pour moi. Ce qui se passe dans ce film, et faut voir le film de Christine. Il est sorti quand? Il a quel âge le film? Il a 2 ans.
Un an.
Il a 1 an.
Mais il est disponible sur les plateformes.
Ouais. Et voilà la façon, le regard que Christine pose sur les autres, que ce soit donc ces gens, la Sophie Kahl, le milieu de l'art et ça, est un regard que je trouve, oui, où il n'est pas question de revanche ou de, c'est une attention permanente quoi.
C'est drôle d'ailleurs qu'on puisse penser que d'écrire quelque chose à partir du moment où voilà, c'est réglé.
Oui, c'est pour faire pour une.
C'est bizarre quand même.
Non, c'est parce que vous montrez aussi qu'on ne se dit pas grand chose dans ces dîners. Dans ce milieu de l'art, c'est assez superficiel les conversations. Vous ne revenez pas nourri d'une rencontre précisément, puisqu'il y a absence de rencontre.
Oui, mais c'est moi aussi, hein. C'est moi ce que j'y trouve. Peut-être d'autres y trouvent d'autres choses. Hein. Voilà. Mais disons, c'est aussi. En fait, c'est pas le milieu de l'art spécialement, c'est la sociabilité en général. Bon, que vous connaissez aussi bien que moi. On connaît tous la sociabilité, c'est quand même une mise en scène des relations amicales. Bon, donc voilà, c'est ça peut être pourquoi pas quoi, mais disons que ça blesse aussi au bout d'un moment si on s'aperçoit que au moment où on regarde son téléphone pour voir quel ami on va appeler, eh bien qu'il y en a pas en réalité. Parce que tous les gens qu'on connaît sont dans cette sont pris dans une sociabilité dont on fait partie, mais ça s'arrête là, en réalité. Donc là, il y a quelque chose aussi, c'est comme ça.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous appelez encore Sophie Kahl, par exemple, au téléphone?
Non, mais ça fait longtemps, ça. Ça fait très longtemps. Vous savez, à un moment, les relations, à moins que les gens y aient un intérêt bien particulier... S'ils ne sont pas nourris d'un sentiment, eh bien, elle s'espace.
Et Christine Angot sourit. On écoute Clara Isée. Elle écrit bien Clara Isée. Je suis sûr que Vincent de Dienne est un fan.
Laquelle ? On écoute laquelle ?
L'océan.
Ah, je ne la connais pas.
Veux-tu chercher sous le calme apparent ? Voudrais-tu aussi accélérer le temps? Que fais-tu face à l'idée du néant qui lentement s'immisce dans nos rangs, plongés sans la violence du courant qui soulève l'océan? Entends-tu comme il est effrayant ce silence qui nous déchire en dedans? Crois-tu que tu es seul? Regarde derrière toi. La vague dans sa gueule nous emportera. Et si tu crois aussi que tu es seul, regarde autour de toi. Nous sommes pris dans la vague qui t'emportera. Veux-tu chercher sous le calme apparent? Voudrais-tu aussi accélérer le temps? Que fais-tu face à l'idée du océan? Entends-tu comme il est puissant ce silence qui nous déchire en dedans? Crois-tu que tu es seul? Regarde derrière toi, la vague dans sa gueule nous envoie. Entends-tu comme il est effrayant ce silence qui nous déchire en dedans? Entends-tu comme il est puissant ce silence qui nous déchire en dedans?
Et dans le grand atelier cet après-midi sur Inter, après Clara Isée l'Océan, on part pour Antibes.
Le grand atelier sur France Inter.
On parle d'art et de littérature aujourd'hui dans ce grand atelier. Alors on va se rendre à Antibes, à la fondation Hartung Bergmann, où se tient une nouvelle exposition à partir du 5 mai, Paysages intérieurs. Bonjour Thomas Schlesser.
Bonjour.
Vous êtes historien d'art, vous êtes écrivain, vous dirigez cette fondation Hartung Bergmann. Votre deuxième roman, j'aimerais bien qu'on en dise un mot parce qu'il est best-seller, ce sont Les yeux de Mona. Combien d'exemplaires vendus? Soyons concrets.
Alors concrètement, à l'échelle du monde, on est déjà à 600 000. Oui, c'est pas mal.
Vous êtes le premier surpris?
Très, très surpris. C'est un roman où j'ai deux artistes qui m'ont porté chance, puisque dedans, il y a Hans Hartung et Anna-Eva Bergmann.
Ah, ben vous
on
ne
le
bien
dit
fait.
Pas suffisamment.
Je dis quelques mots du thème, pour ceux qui oui. n'ont pas, celles et ceux qui ne l'ont pas encore lu. C'est une petite fille qui a 9-10 ans, qui s'appelle Mona. Elle va perdre la vue
oui.
et le temps. Que cela arrive ou pas, je ne dévoile rien, son grand-père décide de l'emmener chaque mercredi dans un musée et de lui ouvrir les yeux. Est-ce qu'il faut dire ouvrir les yeux à la beauté du monde à travers l'art?
C'est une expression qui me convient très bien. Vous savez, il y a cette phrase de Cézanne géniale qui dit qu'il faut aller à la nature par le Louvre et revenir au Louvre par la nature. C'est-à-dire qu'il y a un aller-retour, au fond, entre ce que sont les représentations artistiques et puis ce qu'est notre monde du quotidien. Et donc, on s'ouvre à la beauté du monde grâce à l'art. Et je crois qu'on s'ouvre aussi à l'art grâce à la beauté du monde.
Hartung, Hans Hartung, grand peintre qui fut aussi photographe, qui fut aussi oui. architecte, qui était un des pionniers de l'abstraction. Il peint des traits, il peint des volumes, il peint des mouvements. On a l'impression d'une œuvre en mouvement quand on regarde un tableau de Hartung. Est-ce qu'il y a dans cette abstraction la beauté du monde?
Oui, parce que Hans Hartung, et on le sent très bien à la Fondation Hartung Bergmann, est quelqu'un qui est en connexion permanente avec la nature. Et même s'il ne la représente pas, quand on voit ses œuvres, qui sont parfois comme des grandes nuées, qui sont parfois comme des grandes pulvérisations de couleurs, on a la sensation de la beauté d'un paysage, mais comme intériorisé, quelque chose qui serait intégré et qui passerait au filtre de l'abstraction.
C'est ça que vous présentez à partir du 5 mai dans cette exposition, Paysages intérieurs.
C'est exactement cette problématique, c'est-à-dire que le paysage, en règle générale, on s'imagine un village, une vallée, un petit cours d'eau, un soleil couchant. Mais précisément, l'exposition va chercher à démontrer toutes les qualités de retranscription de la nature qu'il peut y avoir par des formes abstraites, par des formes épurées, même par des formes qui sont purement gestuelles.
J'aimerais bien savoir si vous avez une œuvre favorite dans cette exposition.
Dans cette exposition, vous avez par exemple, quand vous entrez dans l'atelier, une œuvre avec une sorte de projection de peinture couleur un peu sable, donc un fond qui est comme une dune, et par-dessus, Hartung, avec un pinceau géant qui s'est fabriqué lui-même, a fait des projections de masse noir. Et vous avez vraiment l'impression d'une sorte d'envol de corbeau ou de tourbillon. C'est tout à fait prodigieux. Ça ne renvoie à rien de spécifique et en même temps, ça renvoie à tout. Hartung, il cherche à montrer la force intérieure des choses. Donc quand vous êtes face à une œuvre abstraite, c'est ça que vous devez vous dire. Je ne suis pas forcément face à la vague, je suis dans la vague. C'est une endoscopie de la nature.
Alors il faut parler de son épouse, de sa femme qui est une artiste.
C'est Anna-Eva Bergmann et c'est une fabuleuse artiste d'origine norvégienne, née en 1909. Et elle est vraiment alors à la frontière entre la figuration et l'abstraction. Parce qu'elle a été très nourrie de tout ce qu'étaient les paysages de la Norvège où elle a grandi.
Mais ça se sent
sent quand elle dessine la mer, quand elle peint la mer.
Complètement. Elle va peindre la mer, mais au lieu de la peindre de façon naturaliste, elle va, par exemple, associer des feuilles de métal, des feuilles d'argent. Et donc, c'est tout le pouvoir de scintillation, toute la beauté réfléchissante de l'eau qu'elle va retranscrire. Et donc, on est dans une espèce de frontière d'entre-deux qui est, je crois, tout à fait bouleversant.
Un jour, ils sont à Antibes et ils décident d'acheter une maison avec deux ateliers et de fonder la fameuse fondation qui porte leur nom.
En fait, ils arrivent à Antibes en 1959, ils achètent un grand terrain, une oliveraie. Ils n'achètent pas une maison, ils vont la construire eux-mêmes.
Ah oui, puisqu'il est architecte.
Et exactement, ils vont faire les plans eux-mêmes et ils vont faire vraiment la maison de leurs rêves. Avec deux ateliers qui sont au milieu d'un champ, des grands cubes blancs, avec cette lumière méditerranéenne qu'on peut encore sentir aujourd'hui. Et cette maison, elle va être une espèce de petit paradis. Et donc évidemment, vous me permettrez d'inviter tous nos auditeurs, toutes nos auditrices à venir découvrir ça, parce que c'est parfaitement préservé aujourd'hui à Antibes.
Et bien voilà, on va descendre à Antibes, découvrir cette nouvelle exposition et puis surtout ce lieu qui est absolument sublime. Vincent de Dienne, certes, vous écrivez vos spectacles et quelquefois des camarades écrivent avec vous. Mm-hmm. Ça ne vous tenterait pas d'aller dans un musée et d'écrire après ?
Si, c'est vrai que... Non, mais si, l'expérience, elle est marrante. Mais moi, je choisirais le musée Grévin, je crois.
Le musée Grévin ?
Mais oui, il est trop drôle, ce musée.
Avec Stéphane Bern.
Il y a Stéphane Bern ?
Oui, je l'ai vu.
Alors là, raison de plus.
Mais alors, qu'est-ce qui vous attire dans ce lieu ?
Mais d'abord, Hervé Guibert avait fait, que vous connaissez bien, Vincent.
Oui, j'aime bien aussi.
Et
oui.
Qui est dans le livre aussi, là, de Christine.
Oui.
Il a fait toute une série de photos sur le musée Grévin, pas sur les vedettes, plutôt sur les...
Les statues de cire.
Voilà, les statues de cire, les coulisses, enfin, tout ce qu'on ne voit pas quand on va au musée Grévin.
En noir et blanc.
Et c'est assez... Ouais, j'adore cette série de photos. Et puis, j'habite pas très loin du musée Grévin, mais c'est vrai, c'est énorme.
Donc, ça serait pratique.
Ça serait pratique. Je pourrais rentrer à 1h du matin chez moi, à pied.
Passer un coup de fil à Christine Angot. Ouais.
Non, mais est-ce que vous aviez l'obligation de rendre le texte après la nuit ? Ou est-ce que c'est possible de dire, non, j'y suis pas arrivé ? Il n'y a rien, il n'y a pas de...
Ah, mais moi, de toute façon, j'avais déjà pratiquement écrit avant, parce que, parce que sinon, ça m'inquiète trop. Je ne peux pas aller comme ça dans un truc et dire, OK, il faut qu'il y ait un livre là sur les murs. Ouais. Non, ça, ce n'est pas possible. Ouais. Non, pour moi, ce n'est pas possible. Je ne peux pas être dans l'observation comme ça, non, je ne peux pas. Donc, j'avais déjà bien avancé.
Ah oui, d'accord.
Mais oui, bah, si tu n'as pas signé ton contrat, pourquoi pas ?
Tu ne dois rien rembourser.
Mais non !
La nuit. Parce que ça doit
vous
coûter cher, la nuit au musée.
Vous ne pensez qu'à l'argent. Lydie Salvert était allée au musée Picasso.
Ouais.
Elle a écrit « Marcher jusqu'au soir » et puis elle est venue un jour dans le grand atelier. Et Lydie Salvert, elle n'arrive pas à mentir. Et elle m'a fait un aveu qu'elle n'avait jamais fait, en tout cas au micro.
Je n'ai jamais passé de nuit.
Non.
Non, j'ai tout inventé. Il ne faut pas le dire. Et c'est ça qui est terrible. Quand je vous disais que la littérature est mensonge, mais bien sûr, j'adorais Giacometti, je suis allée le voir souvent, etc. C'est une imposture.
Donc jamais vous n'avez...
Je vais me faire engueuler par Alina, qui va me dire pourquoi tu l'as dit.
Alors Alina, c'est la personne qui vous a demandé de passer cette nuit au musée, et à qui vous avez dit non finalement.
Je lui ai dit que j'étais OK pour écrire le livre, mais sans y passer une nuit.
Pourquoi ?
Ça me faisait peur. Ça me faisait peur.
Peur de quoi ?
Je sais pas, rester seule dans un musée comme ça toute une nuit. Puis je voyais pas l'intérêt.
Christine Angot, vous saviez ce...
Non, je savais pas.
C'est intéressant aussi.
Qu'elle n'ait pas osé le dire. Bah, oui, mais
oui, et puis que le livre soit né quand même, c'est ce que vous disiez.
Oui.
On peut ne pas se sentir forcément à sa place, parce que vous écrivez « je ne suis pas à ma place dans ce musée ».
Oui, mais ce qui est marrant aussi,
et c'est pourtant que, produire un livre.
C'est très bizarre. C'est quand même écrire, c'est quand même l'acte de liberté le plus radical. Et après, vous n'osez pas dire que vous n'êtes pas allé... C'est bizarre. Vous voyez, comme on est...
Contraint.
Comme on est contraint, en effet.
Mmh. En tout cas, les livres sortent et bientôt, ce sera Ma nuit avec Stéphane Bern par Vincent de Dienne. Vincent, vous êtes un petit peu en vacances en ce moment. Je n'ai pas de promo à faire là au micro.
Un soir de gala dont parlait Christine passe, je crois, sur TMC le 14 mai, je crois.
Très bien, la promo est faite. Et puis Christine, Angot, La nuit sur commande, aux éditions Stock. Merci d'être venus tous les deux.
Merci à vous.
Merci Vincent.
Lucie Le Marchand a réalisé cette émission, Louise Tempero, Virginie Rosic, Betty Algret m'ont aidé à la préparer, Valentine Chedebois a programmé la musique, il y avait aujourd'hui à la technique Gaspard Guy Bourget.